Excellente journée à tous.
VOA Afrique, les infos à Washington.
Jean-Roger Billon, Le Monde aujourd'hui, édition du jeudi 11 février 2021. Bonjour, bienvenue. 28 casques bleus togolais ont été blessés mercredi dans le centre du Mali lors d'une attaque qualifiée de complexe contre leur camp dans un secteur en proie à une activité djihadiste accrue. Les casques bleus participaient à une des nombreuses opérations menées depuis plusieurs mois par la MINUSMA dans le centre du Mali pour réduire les violences contre les civils, apaiser les tensions communautaires et diminuer la menace des engins explosifs improvisés, a dit la MINUSMA. Ces opérations dérangent les ennemis de la paix, a déclaré pour sa part le chef de la mission onusienne, Mahamat Saleh Anadif, qui a condamné fermement cette attaque et l'a qualifiée de lâche contre les soldats de la paix. Un tonnier chinois et un pétrolier transportant du carburant pour le français Total ont été détournés avec leur équipage dans le golfe de Guinée, épicentre mondial de la piraterie, ont indiqué mercredi la Guinée équatoriale et une société de surveillance maritime. Les 14 membres de l'équipage, des Chinois, Indonésiens et Gabonais, étaient toujours à bord mercredi et le tonnier a été repéré à quelques 110 km de l'île nigériane de Boni. Plus de 1500 migrants ont été interceptés en une semaine au large de la côte ouest de la Libye, alors qu'ils tentaient de rejoindre l'Europe par la mer. Les agences de l'ONU et les ONG dénoncent régulièrement le renvoi en Libye de migrants interceptés en mer, étant donné la situation chaotique du pays. Elles déplorent également des conditions médiocres dans les centres de détention. Le directeur de la Croix-Rouge éthiopienne a affirmé mercredi que 80% de la région du Tigré, où le gouvernement fédéral a lancé une opération militaire le 4 novembre, n'était pas accessible à l'aide humanitaire et a mis en garde contre des conséquences potentiellement dramatiques. Le très sombre tableau dressé par le responsable de la Croix-Rouge lors d'une conférence de presse en ligne depuis Addis Abeba renforce les craintes d'une catastrophe humanitaire au Tigré, une région du nord de l'Éthiopie quasiment coupée du monde depuis novembre. Le président américain Joe Biden s'est entretenu aujourd'hui pour la première fois depuis son élection avec son homologue chinois Xi Jinping. Ce fut aussi le premier appel entre Xi Jinping et un président américain depuis le mois de mars dernier lorsqu'il s'était entretenu avec Donald Trump. Depuis, les relations entre Washington et Pékin se sont dégradées à un niveau sans précédent depuis l'établissement de liens diplomatiques en 1979. Joe Biden a expliqué à Xi Jinping que la priorité des États-Unis était de préserver la liberté et l'ouverture de la région Indo-Pacifique avant de lui faire part de ses préoccupations concernant la répression menée par la Chine à Hong Kong, les violations des droits de l'homme dans le Xinjiang et son attitude vis-à-vis de Taïwan, selon un communiqué publié par la Maison-Blanche. Les deux dirigeants ont aussi évoqué les moyens de faire obstacle à la pandémie de COVID-19 et du défi que représente le changement climatique. Les Birmans sont descendus aujourd'hui pour une 6e journée consécutive dans les rues contre le coup d'État qui a renversé Aung San Suu Kyi. La peur des représailles est dans tous les esprits, 2 jours après l'usage de la force par la police qui a fait plusieurs blessés, dont 2 dans un état grave. Une jeune femme a reçu une balle dans la tête et sa situation est critique. Le président américain Joe Biden a annoncé mercredi que son administration réduisait l'accès des généraux birmans à 1 milliard de dollars de fonds aux États-Unis et allait dévoiler de nouvelles sanctions dans la semaine prochaine. Les États-Unis ont appelé mercredi la Turquie à libérer immédiatement l'homme d'affaires et philanthrope Osman Kavala, détenu depuis plus de 3 ans sans avoir été condamné. Vendredi, un tribunal turc a décidé de rassembler 2 affaires contre Kavala après qu'une cour d'appel ait annulé son acquittement dans l'une d'elles. VOA Afrique Info, nous sommes le jeudi 11 février 2021. En ligne de mire dans ce journal ici aux États-Unis, les procureurs démocrates au procès de Donald Trump ont accusé mercredi l'ex-président d'avoir nourri pendant des mois la colère de ses partisans jusqu'à ce qu'elle explose au Capitole le 6 janvier dernier. Les présidentielles au Bénin, l'ONU appelle à une élection participative et transparente. Jean-Roger Billon, on revient dans un instant. Nous émettons de Washington.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
La suite de nos informations en ce jeudi 11 février 2021, au deuxième jour du procès de Donald Trump devant le Sénat américain, les procureurs démocrates se sont attachés à replacer l'attaque contre le Capitole dans le contexte de la croisade post-électorale menée par l'ex-président pour contester la victoire de Joe Biden à la présidentielle. Le point avec Eric Manirakiza.
Mêlant des extraits de caméras de surveillance aux vidéos mises en ligne par des émeutiers, les procureurs démocrates ont appelé aux 100 sénateurs, à la fois juges, jurés et témoins de ce procès, qu'ils avaient eux-mêmes échappé de peu au pire. Le président Trump n'a pas été le témoin innocent d'un accident, comme ses avocats le suggèrent, mais il a abandonné son rôle de commandant en chef pour devenir l'incitateur en chef d'une dangereuse insurrection, a lancé Jamie Raskin, qui supervise cette équipe. Le coup de force et sanglant de ses partisans au moment où le Congrès certifiait la victoire de son rival n'est pas survenu dans le vide. La hargne de la foule a été attisée pendant des mois par Donald Trump, a renchéri Joaquim Castro. Le grand mensonge, c'est ainsi qu'ils ont décrit la longue campagne de désinformation sur l'élection présidentielle entretenue par le 45e président américain qui a répété pendant des semaines, sans preuve, qu'il avait été victime de fraude électorale massive. Et le 6 janvier, il a appelé ses fans chauffés à blanc à manifester à Washington. « Battez-vous comme des diables », a-t-il lancé à la foule, juste avant l'intrusion dans le temple de la démocratie américaine. Les démocrates doivent convaincre 2/3 des sénateurs, le seuil fixé par la Constitution. Il semble peu probable que 17 républicains joignent leur voix aux démocrates pour le déclarer coupable, et in fine, le rendre inéligible.
Au deuxième jour du procès de Donald Trump, les procureurs démocrates ont qualifié l'ex-président d'incitateur en chef de l'assaut contre le Capitole le 6 janvier. Ils ont continué leurs arguments en utilisant des vidéos pour tenter de prouver son implication. Pour une analyse, Abdourahman Dia, joint à New York, Souleymane Béchi Diagne de Columbia University.
Tout le monde parle de la vidéo de 13 minutes qui a reconstitué en quelque sorte le récit de ce qui s'est passé, et le monde entier, l'Amérique d'abord, le monde entier a pu voir l'horreur de ce qui s'est passé. Donc ça, c'était un premier point relatif à ce qui s'est passé hier. Véritablement, les démocrates, enfin tous ceux qui sont les managers, comme on les appelle, de la procédure d'impeachment, ont fait de l'avis même des avocats du président Trump un excellent travail de reconstitution de ce qui s'est passé. Nous sommes maintenant au deuxième jour et il s'agit de lier plus étroitement le président Trump à ce qui s'est passé. Et ce que je retiens, c'est qu'au fond, ces deux jours ont montré l'histoire en train de s'écrire. On peut imaginer très facilement que dans plusieurs années, c'est ainsi qu'on racontera l'histoire de ce qui s'est passé ce fameux 6 janvier.
En fait, vous faisiez allusion à ces images que les procureurs démocrates sont en train de montrer aux jurés, ces sénateurs qui sont donc chargés de, en fin de compte, de donner un verdict. Mais pour vous, à qui s'adressent ces procureurs démocrates, les jurés ou le public?
Je crois qu'ils s'adressent au public plutôt, parce que finalement, les jurés, sauf retournement extraordinaire, on a le sentiment que leur conviction est déjà faite, ou en tout cas leur décision politique est déjà prise. Mais encore une fois, un retournement est toujours possible. Mais je crois que ces procureurs sont en train véritablement de s'adresser au peuple américain en leur disant « Regardez bien, voici ce qui s'est passé et nous avons toutes les raisons de mener ce procès, ce second impeachment, parce que c'est notre obligation » et parce que nous ne voulons plus que ceci arrive à notre démocratie. Donc je crois qu'ils sont en train de témoigner à la fois devant le peuple américain et d'une certaine façon aussi, je reviens à cet aspect des choses, devant l'histoire.
Et comment appréciez-vous l'attitude des sénateurs républicains? Jusqu'à seuls 6 ont voté pour dire que le procès est constitutionnel.
Je crois qu'ils sont quand même dans une mauvaise passe. Je pense que les sénateurs sont en train de faire un calcul entre leur intérêt politique du moment, leur intérêt politique à plus long terme et ce que j'appellerais leur conscience. On notera d'ailleurs que celui qui est par la force des choses aujourd'hui le leader du Parti républicain, donc le Mitch McConnell qui dirige la minorité au Sénat, leur a dit de voter selon leur conscience, donc de dire qu'il n'y a pas de consigne du parti de voter dans un sens ou dans un autre. Pour l'instant, c'est vrai que la configuration du Parti républicain est telle que le président Trump garde encore une très grande emprise sur ce parti. Mais est-ce que ça va être le cas dans 2 ans? Parce que 2 ans, c'est long, c'est court, mais c'est long. Et donc, la configuration peut changer.
C'était le professeur Souleymane Béchir Diagne, joint à New York.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Présidentielle du 11 avril au Bénin, l'ONU appelle à une élection participative et transparente après une mission de 3 jours dans le pays en début de semaine du représentant spécial des Nations Unies pour l'Afrique de l'Ouest et le Sahel, Mohamed Ibn Chambas. Les détails avec Yacouba Ouedraogo.
Pendant son séjour, Mohamed Ibn Chambas a rencontré le président Patrice Talon et des responsables des partis politiques, dont ceux de l'opposition. Le représentant spécial pour l'Afrique de l'Ouest et le Sahel a appelé toutes les parties prenantes à privilégier le dialogue pour résoudre les éventuelles divergences. M. Chambas les a invités à ne ménager aucun effort pour garantir l'organisation d'une élection paisible, participative et transparente. Lundi, une partie de l'opposition a dénoncé ce qu'elle qualifie de verrou mis en place par le pouvoir pour empêcher un scrutin participatif. Elle indexe surtout une disposition de la loi électorale qui impose à chaque candidat d'être parrainé par 16 maires ou députés. Or, l'opposition ne dispose que de 6 élus, l'obligeant selon elle à devoir négocier avec la majorité présidentielle pour trouver des parrainages et participer à l'élection présidentielle. La commission électorale a reçu 20 dossiers de candidature, dont celui du président Patrice Talon. L'élection doit être ouverte, a déclaré l'opposant Eric Ondete, affirmant, je cite, que la frustration engendre la violence.
C'est à présent l'heure de la Minute Éco, présentée par Claire Morin-Gibourg.
La Banque mondiale vient d'allouer à Madagascar un financement de 50 millions de dollars pour soutenir ses efforts de réduction des émissions dues à la déforestation et à la dégradation des forêts entre 2020 et 2024. L'objectif est d'accroître la productivité agricole tout en réduisant la pauvreté en milieu rural et en améliorant la qualité des sols. La conservation des ressources hydrauliques et la protection de la biodiversité font également partie des buts que s'est fixé l'initiative. Basée à Goulamina, dans le sud du Mali, la compagnie minière Mali Lithium Limited vient de changer de nom. Elle se nomme désormais Firefinch. Elle dispose d'une capacité de production annuelle de 436 000 tonnes de concentré de spodumène pendant 23 ans au moins. Mais pour atteindre ses objectifs, Firefinch doit mobiliser 194 millions de dollars qui vont notamment permettre la fin de la construction de l'usine. Au Nigeria, la justice a ordonné hier mercredi à la Banque centrale de procéder au dégel des comptes bancaires de 20 figures du mouvement de contestation contre les violences policières qui avaient secoué les grandes villes du sud du pays en octobre. Les comptes bancaires de ces manifestants avaient été bloqués en novembre, peu après la fin du mouvement de contestation qui avait été réprimé par les autorités.
Et maintenant, la page des sports avec Yacouba Ouedraogo.
Bonjour à tous. Finale du Mondial des clubs ce soir à Doha, au Qatar. Les Tigres mexicains, amenés par leur buteur André-Pierre Gignac, défient l'orgue Bayern Munich à 19h. Une victoire des Mexicains au stade de la Cité de l'Éducation d'Al Rayyan serait une énorme surprise puisque depuis sa création dans son format moderne au début des années 2000, le mondial des clubs a toujours été remporté soit par le représentant de l'Europe, soit par celui de l'Amérique du Sud. Le Bayern, qu'il a déjà gagné en 2013, cherche à sceller un septuplé de trophées en l'espace d'un an, Coupe Championnat, Ligue des Champions, plus les Supercoupes d'Allemagne et d'Europe. Éliminé justement en demi-finale 0-2 par le Bayern Munich, le champion d'Afrique Al Ahly tentera de décrocher la 3e place du mondial des clubs ce soir face au Brésilien de Palmeiras. Transfert, l'Ajax Amsterdam a prêté avec option d'achat son attaquant burkinabé Hassan Bandé à NK Istra 1961 en première division croate jusqu'au 30 juin 2022. Le contrat du Bandé avec l'Ajax court jusqu'en 2023, mais il ne totalise que 8 matchs avec le club néerlandais et avait été prêté au FC Thun l'an dernier. Ici aux États-Unis, la NBA a affirmé hier que toutes les équipes doivent jouer l'hymne national américain avant chaque match. Depuis le début de la saison NBA, les Dallas Mavericks ont cessé de faire retentir l'hymne avant les matchs dans leur salle suite à une décision du propriétaire Mark Cuban, confirmée par ce dernier sur ESPN. Aucune des 13 rencontres, celle de pré-saison incluse, ayant été jouée à l'American Airlines Center depuis la mi-décembre, n'a été précédée du cours cérémonial consacré au Star Spangled Banner, une première dans le basketball professionnel américain qui aura mis 2 mois pour être remarquée. C'est lors de la réception des Minnesota Timberwolves lundi, première rencontre disputée en présence d'un nombre limité de spectateurs, que le média des athlétiques s'est enquéri de cette absence, les Mavericks n'ayant jamais communiqué sur la question.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique, Jean-Roger Billon toujours en votre compagnie. À présent, nos dossiers du jour. Au Tchad, Amnesty International dénonce l'interdiction de manifestations et des arrestations d'opposants. Au moins 14 personnes arrêtées le 6 février ont été inculpées pour coups et blessures volontaires, troubles à l'ordre public et destruction de biens de l'État et placées sous mandat de dépôt à N'Djamena. Une trentaine d'autres ont été condamnées à des peines de 2 à 3 mois de prison à Moundou. Certains manifestants, dont le président des transformateurs, Succès Masra, sont toujours réfugiés à l'ambassade des États-Unis. Nathalie Barge a joint Abdoulaye Diarra, chercheur sur l'Afrique centrale, à Amnesty International.
Il y a eu plusieurs membres de la société civile, des associations, des membres de partis politiques qui ont été arrêtés pour avoir essayé d'organiser une marche le 6 février. Et 14 d'entre eux ont été présentés devant un juge et sont accusés de troubles à l'ordre public et de rébellion. Nous constatons effectivement depuis plusieurs mois que les demandes de manifestation de partis d'opposition, mais également de membres de la société civile, sont interdites par le gouvernement et les marches également sont réprimées par la police. Et donc c'est pour cela que nous parlons justement d'atteinte à la liberté de manifestation, mais aussi à la liberté d'expression au Tchad.
Il y a également eu des arrestations et des condamnations à Moundou.
Oui, en effet, c'était un appel à manifestation dans l'ensemble du pays. Nous avons noté des arrestations à N'Djamena, mais également des arrestations à Moundou au sud du pays et également dans d'autres places du pays. Et donc, les personnes arrêtées le sont pour des questions de troubles à l'ordre public. Depuis 3 mois, les autorités tchadiennes ont plusieurs fois interdit la tenue de manifestations. Et ces interdictions, pour nous, constituent des restrictions qui ne sont pas nécessaires et que l'on juge comme disproportionnées au regard du droit à la liberté de réunion pacifique, mais également par rapport aux droits que procure la Constitution tchadienne et les traités internationaux. Donc nous demandons justement aux autorités tchadiennes de respecter les textes de loi et de garantir justement le droit à manifester librement et à se réunir librement.
Tout cela arrive à l'approche des élections. Est-ce que vous pensez que cela pourrait notamment mettre en péril ces élections?
Nous constatons qu'il y a de plus en plus de manifestations à l'approche justement du scrutin. Et pour garantir que ces élections se passent dans un climat apaisé, il est important que les autorités justement respectent le droit de chacun de manifester librement et de s'exprimer librement.
Quelle est la situation des transformateurs qui se sont réfugiés dans l'enceinte de l'ambassade des États-Unis?
Ce que nous savons, c'est que une partie des manifestants, dont certains membres de ce mouvement, se sont réfugiés dans le périmètre de sécurité de l'ambassade des États-Unis et qu'à l'heure où on se parle, ils y seraient encore.
Abdoulaye Diarra, chercheur sur l'Afrique centrale à Amnesty International, joint à Dakar au Sénégal.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
De plus en plus de voix s'élèvent en Ouganda pour dénoncer la disparition de certains partisans de l'opposition. Selon les proches des disparus, ils ont été détenus par les forces de sécurité avant les élections du mois dernier. Dans le reportage de Halima Atoumani à Kampala, le gouvernement confirme que 44 personnes sont portées disparues depuis novembre et que la plupart appartiennent au parti de l'unité nationale de l'opposition. Le récit est de Blanche Sanou.
Le 23 novembre, Lukwango Martin a été arrêté par des militaires ougandais à son étal de poissons sur le marché de Bugolobi. Quelques semaines plus tard, Marina Muyanja, la femme du disparu, dit qu'elle ne peut toujours pas retrouver son mari, même après avoir fouillé les postes de police et les hôpitaux.
Les enfants m'interrogent tous les jours sur leur père. Je ne sais pas quoi leur dire. S'il a commis un crime, laissez la justice s'en occuper, au moins que je sache ce qui se passe.
Une semaine après que Martin a été amené, des proches disent que le personnel de sécurité a récupéré deux mécaniciens autour du marché, dont Nalumoso Vincent, le mari de Nyanyonga. Elle dit qu'il est toujours porté disparu.
Nous souffrons tellement que le gouvernement devrait nous aider. Mon mari n'a commis aucun crime. Il ne faisait pas partie des manifestants. Ils l'ont trouvé en train de travailler sur une moto.
Le jour de la détention de Martin, 10 autres hommes ont également été arrêtés, dont Okumu Charles. Selon son témoignage, ils ont été forcés à monter dans une voiture Toyota et torturés avant que certains ne soient relâchés. Il dit que d'autres comme Martin ont été arrêtés en raison de leur association avec le parti de l'unité nationale.
Lukwago Martin était membre du parti de l'unité nationale et il se déplaçait toujours avec notre conseiller. Ils étaient toujours ensemble. Ceux qui ont été arrêtés dans le garage, le mécanicien Vincent, il était le mobilisateur du parti dans le quartier de Bugolobi. L'autre jeune homme, Agaba Ronald, qui a été arrêté, était un fervent partisan du parti. Il n'a manqué aucune des réunions.
Après avoir nié les enlèvements, le ministre ougandais de l'Intérieur, Djeyo Odong, a publié jeudi une liste de 44 personnes portées disparues dans le pays. Le général de division Paul Lekek, chef adjoint de la police ougandaise, a déclaré qu'ils avaient chargé les responsables des enquêtes criminelles et du renseignement de lui donner les noms des 44. Pendant que le gouvernement mène des enquêtes, les médias ougandais et les proches des partisans de l'opposition continuent de dénoncer la disparition de ceux qui ont été arrêtés par les autorités.
Abdourahmane Dia avec vous. Dans Washington Forum cette semaine, la tenue le week-end dernier du 34e sommet de l'Union africaine. Le président congolais Félix Tshisekedi, qui prend la tête de l'organisation pour un an, a un agenda chargé. La lutte contre le Covid-19 et la coordination dans l'acquisition des vaccins, la restitution des œuvres d'art, le règlement des conflits et la mise en place de la zone de libre-échange continentale lancée le 1er janvier. Tout ceci alors que l'Union africaine poursuit son programme de réforme qui doit s'achever cette année. Les défis qui attendent la nouvelle direction de l'Union africaine, c'est ce jeudi à 19h temps universel sur VOA Afrique et voafrique.com.
10 ans après la chute de Muammar Kadhafi, la Libye reste minée par des conflits. Des pourparlers politiques ont permis récemment la désignation d'une autorité exécutive unifiée pour diriger la transition, ce qui a eu le don de raviver l'espoir de ramener la sécurité dans le pays. Pour en parler, Eric Manirakiza, adjoint à Genève, Romain Grandjean du Dialogue humanitaire, directeur en charge de la région Moyen-Orient et Afrique du Nord.
Je crois que si on compare la situation d'aujourd'hui et de celle d'il y a un an, il y a de véritables progrès qui ont été réalisés en Libye, à la fois sur le plan sécuritaire, avec le cessez-le-feu du 23 octobre dernier qui tient toujours à ce jour, même si la présence de mercenaires étrangers est toujours très importante. Le cessez-le-feu est là et les combats n'ont pas repris, donc il y a un véritable progrès sur le plan sécuritaire et un progrès aussi sur le plan politique. Il y a une feuille de route qui a été adoptée à Tunis au mois de novembre et qui commence à être mise en œuvre. Et la première étape de la feuille de route, c'est la nomination du nouvel exécutif. Et ça a été fait il y a une semaine en Suisse. Aujourd'hui, le nouveau Premier ministre a encore un peu moins d'une vingtaine de jours pour proposer un gouvernement qui doit être un gouvernement inclusif, qui permette de réunifier les institutions et de préparer les élections qui sont prévues pour le 24 décembre 2021. Donc il y a de véritables progrès qui ont été réalisées au cours des, je dirais, des 6, 7, 8 derniers mois et contribuent à améliorer la stabilité. Mais tout ça reste extrêmement fragile. Donc, on n'est pas à l'abri d'une reprise du conflit ou de tentative de déstabilisation de la part de parties extérieures.
Quels sont les éléments matériels, justement, qui expliquent ce risque ?
Je crois que c'est assez clair pour tout le monde que la présence de mercenaires étrangers sur le territoire libyen reste extrêmement importante. Aussi, la quantité d'armes sur le territoire est toujours là. Donc ce sont des indicateurs très, très réels. Et il y a eu des rapports du panel d'experts de l'ONU pour expliquer tout ça. Donc, ça montre encore la fragilité de la situation. Malgré les progrès.
Est-ce que ce gouvernement aura les moyens nécessaires pour contourner tous ces défis ?
Il faudra voir de qui est composé ce gouvernement. Si c'est un gouvernement qui est véritablement inclusif, c'est-à-dire où toutes les principales parties libyennes en conflit sont représentées dans ce gouvernement. S'il est inclusif, ça permettra sans doute de réunifier davantage les institutions. Et ensuite, il faut qu'il soit compétent, c'est-à-dire que les différents ministères soient occupés par des personnes qui sont capables non seulement de ramener ou d'améliorer les services à la population et de préparer les élections.
Est-ce que la solution libyenne devrait, disons, associer les gens de Kadhafi, notamment son fils, pour finalement retrouver la stabilité ?
Je crois que depuis maintenant 3 ans, depuis 2017, il y a un véritable effort qui a été engagé par l'ONU, la MANUL, et avec notre soutien d'ailleurs, pour relancer le processus politique et de manière inclusive. Et quand je dis inclusive, ça aussi implique que des éléments de l'ancien régime qui ont été exclus jusqu'à 2017 de tout dialogue politique soient inclus dans cette discussion.
Romain Grandjean du Dialogue humanitaire, directeur en charge de la région Moyen-Orient et Afrique du Nord.
VOA Afrique en direct de Washington.
Ici aux États-Unis, le deuxième procès en destitution de l'ancien président Donald Trump, qui a débuté mardi au Sénat américain, s'est poursuivi hier. À la fin, les sénateurs devront décider si M. Trump a incité à l'insurrection meurtrière le 6 janvier au Capitole, en exhortant ses partisans à affronter les législateurs alors qu'ils certifiaient la victoire de Joe Biden à la présidentielle de 2020. Mise en perspective, Catherine Gibson, correspondante de la VOA au Congrès, récit Lionel Gaïma.
L'assaut meurtrier du 6 janvier au Capitole a abouti à une première dans l'histoire des États-Unis. Un ancien président est jugé au Sénat américain.
Hear ye, hear ye, hear ye.
Donald Trump est accusé d'avoir incité ses partisans à l'émeute après avoir prétendu qu'il avait remporté l'élection de 2020. Il leur a dit de lutter contre la certification des résultats des collèges électoraux, donnant la victoire à Joe Biden. Chuck Schumer, leader de la majorité au Sénat.
Des accusations les plus graves jamais portées contre un président des États-Unis dans l'histoire américaine.
Plus de 200 personnes ont été inculpées en rapport avec cette émeute du 6 janvier, une journée particulière qui, pour les législateurs démocrates, peut constituer une source d'inspiration pour l'extrémisme domestique ainsi que les abus de pouvoir présidentiel. Jamie Raskin, responsable de la mise en accusation de la Chambre des représentants.
Ça ne peut pas être l'avenir de l'Amérique. Nous ne pouvons pas avoir des présidents qui incitent et mobilisent la violence de la foule contre notre gouvernement et nos institutions parce qu'ils refusent d'accepter la volonté du peuple.
La garde nationale affirme qu'à la mi-mars, elle aura dépensé près d'un demi-milliard de dollars en sécurité supplémentaire pour le Capitole depuis l'attaque du 6 janvier. Au premier jour du procès, les démocrates ont présenté leurs arguments. David Cicilline, représentant démocrate.
Nous allons fournir des preuves accablantes que le président Trump est seul et directement responsable de l'incitation à l'assaut contre le Capitole.
Pour les démocrates, M. Trump doit faire face aux conséquences, même s'il n'est plus président. Joe Negussie, député démocrate.
Les présidents ne peuvent pas enflammer une insurrection au cours de leur dernière semaine de mandat, puis s'en aller comme si de rien n'était.
Si Trump est reconnu coupable, les sénateurs voteront à nouveau pour décider s'il faut lui interdire de se présenter à nouveau aux élections. Le procès reprend ce mercredi avec 16 heures pour chaque parti pour représenter des arguments et des preuves, ce qui va se dérouler au moins jusqu'à dimanche.
Le Monde aujourd'hui, c'est la fin de cette édition matinale. Merci de l'avoir suivi. Présentation Jean-Roger Billon, mise en onde Michel Joseph. Rendez-vous sur notre site internet voafrique.com et nos pages Facebook, Twitter et Instagram pour un suivi de l'actualité 24 heures sur 24.